Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Lorsque je vous dirai votre nom, vous viendrez vous mettre près de moi et je vous dirai où vous devez vous mettre. Il prend un papier et dit la liste des noms en indiquant le groupe. Ça a été le tour à Alexis qui s'est trouvé seul. Puis, le surveillant leur a dit « Nous allons aller chercher les livres scolaires. Venez, venez. » Les amener dans une pièce où se trouvent des livres scolaires. Puis les élèves ont été menés dans leurs classes respectives. Alexis est le seul nouveau de son groupe. On l'a fait asseoir au troisième rang près d'un garçon blond habillé d'un costume beige. La première journée a été pour la présentation des cours, horaires, etc. Alexis, à midi, a mangé au lycée. Puis à 17h, il a pu sortir. Son premier jour a été un tourbillon de nouveautés. Il a vécu comme un rêve, un mauvais rêve. Personne ne lui a parlé, ni a fait attention à lui. Ces nouveautés lui ont donné le tournis. Les professeurs lui ont paru pédants, dédaigneux. Il ne parle qu'en disant « messieurs » et en ne regardant personne. Il ne demande jamais s'il en a compris. Il parle très vite et ont l'air de dédaigner les élèves. Les élèves semblent apprécier qu'on les traite comme des hommes et que les profs, leurs cours sont sans sentimentalité. Ils aiment l'efficacité. Des profs pédants pour des élèves pédants. Alexis se demande ce qu'il va faire dans un milieu pareil, milieu 2. Thank you. que le soir, il entre chez sa mère. Elle lui demande « Ça s'est bien passé ?» dit « J'aime mieux ne pas y retourner. » Elle lui dit « Ne te fais pas de soucis, c'est le premier jour. » La semaine passe. Personne ne lui parle. Les professeurs vont trop vite et doivent noter trop vite. Au début, il y a des difficultés à suivre. Puis, petit à petit, il s'habitue. Le soir, il travaille ferme pour revoir ce qu'il a appris la journée. Sa mère, le soir, lorsqu'il étudie, va lui apporter de temps en temps des petites choses, du jus de fruits, des gâteaux, pour qu'il puisse se remonter. Il se sent seul au milieu de ses jeûnes. Personne ne cherche à lui parler, même pas son voisin de bureau. Ouf, la semaine est finie. Il aimerait c'est que le dimanche durera toujours. Surtout que ce dimanche ressemble à une journée d'été. Il passe sa journée avec ses parents dans l'appartement. Dimanche à la soirée, il est obligé, c'est de se remettre au travail. Et le lundi, ça recommence. Il a l'impression, c'est de travailler à la chaîne. Pourtant, il voit les jeunes qui l'entourent vivre joyeusement, rire, être content d'être ensemble, mais il se dit que il peut se réconforter. Ils se connaissent tous depuis longtemps et ils connaissent aussi leur milieu. Il y a tellement de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est un étranger au milieu d'eux. Ils ont tous des téléphones portables, des mini-ordinateurs dans leur cartable, une carte de crédit bien remplie. Ils vont à Rambouillet, font du cheval, du golf, du tennis. Vont à des balles. Biarritz, Deauville, font du ski, etc., etc. Des soirées entre eux. Lui n'a pas tout ça. Il ne pourra jamais être comme eux. Pourquoi la vieille ne l'a-t-elle pas laissée là-bas? Il dit la vieille lorsqu'il est furieux contre elle. Oui, c'est la vieille qui l'a mis dans cette boîte. Lui était bien au milieu des garçons de son milieu. Il est vrai que les cours sont meilleurs, que l'on apprend mieux. Mais il y a un étranger au milieu d'eux. Lui, le fils d'un magasinier et d'une femme de ménage au milieu des fils de PDG. Heureusement que les professeurs et les autres ne lui demandent pas qui il est. Les jours passent, Montrose. Comme il n'a rien, alors pour se distraire, il se penche sur son travail. Il travaille beaucoup, car il veut y arriver. Il travaille bien, a de bonnes notes. Certains des professeurs disent son nom, mais très vite, et personne ne fait attention à lui. Aucun professeur lui dit un mot gentil, ne l'encourage. Il a de bonnes notes et c'est tout. Il se dit que les professeurs doivent savoir qui il est et qu'ils doivent le dénigrer parce que c'est un fils de rien. Lui se dit qu'il va leur prouver qu'il est le meilleur et mieux qu'eux et rêve de l'être. Car pour les gens de sa classe, c'est la seule chose pour être reconnu. Reconnu par leur travail et le sérieux. Alors il travaille d'arrache-pied. Il étudie chez lui jusqu'à minuit et même le samedi et le dimanche. Il étudie plus pour aller plus loin que les leçons pour être le meilleur et pour en savoir plus. Sa mère s'inquiète. Elle pense qu'il en fait trop. « Tu devrais te reposer, » il lui dit. « Je me reposerai le jour où je serai le meilleur. Pour le moment, je ne suis rien. » Le père dit à sa femme, « Laisse-le, il vaut mieux qu'il passe son temps à étudier qu'à faire des bêtises. » Les jours passent. Il vit dans une solitude complète et est devenu une machine à apprendre. Il veut des notes, de très bonnes notes, pour montrer à ses pédants qui il est. Pour se distraire, il se promène dans son quartier, lit ou écoute de la musique. Il aime bien son quartier. Seul, toujours seul. Madame Poncet demande des nouvelles du petit à sa mère. Elle l'a convoqué au salon. Alors, comment va notre lycéen ? La mère lui dit, il va très bien, étudie beaucoup, peut-être même un peu trop. Elle lui dit, c'est bon ça. Il faut qu'il y arrive. Et s'il y arrive, je serai ici le récompensé. Je l'aime bien, mon petit. La mère n'aime pas qu'elle parle comme ça. Ce n'est pas son fils. Un après-midi, en sortant du lycée, au milieu des autres élèves, tout à coup, il est poussé par un élève qui manque de le faire tomber. Pardonnez-moi. Il voit un garçon d'à peu près son âge, grand, mince, rouquin, le visage rieur, yeux bleus, très beau. Il porte un costume gris en pantalon de golf. J'espère que je ne vous ai pas fait mal au moins. Alexis lui dit. Non, ça va. Il ose à peine le regarder. Lui, le dévisage. Les élèves les bousculent et passent devant eux. Le garçon lui dit. Ferions mieux, c'est de nous éloigner un peu de l'entrée. Et il s'éloigne. Le garçon lui dit, je m'appelle Mathieu Servant. Moi, c'est Alexis Prudent. Je lui demande, c'est la première année que vous êtes là? Oui, moi aussi. Je trouve la boîte chiante, mais on y travaille bien et c'est l'essentiel. Alexis lui dit, vous avez raison. Mathieu lui dit, ferions mieux, c'est de nous tutoyer. Oui. Mathieu lui demande, tu vas du quel côté? Là? Moi aussi. Et ils se mettent en route. Tu as quel âge? Demande Mathieu. 12 ans. Moi, 13. Un âge difficile. Tu vis chez tes parents? Oui. Moi, j'ai qu'une mère. Mais nous vivons comme nous pouvons. C'est pas facile, mais on y arrive. Ma mère est aide-comptable au printemps. Je dis, aide-comptable. Pas comptable. Je dois être le seul pauvre du lycée, allait-il dire. Moi aussi, je suis d'une famille pauvre. Mathieu lui demande. Qu'est-ce que tu fais? Allait-il dire. Pas grand-chose. Je lis, je me promène, je suis seul, Mathieu lui dit. Et il continue à parler. Alexis trouve Mathieu très beau garçon. Il est un peu troublé par lui. Il a un peu peur de le regarder. Il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression que son trouble n'est pas clair. Pourquoi est-il attiré par sa peau si blanche, ses beaux cheveux? Mathieu aussi est attiré par Alexis. Dès le début, il a été attiré par lui. Dès la seconde où il l'a vu, il le trouve très élégant. Et ce regard si doux qu'il a, mais il ne lui montrera jamais. Ne lui dira jamais, parce que ses sentiments resteront purs. Arrivé à Montparnasse, Alexis arrive devant chez lui. Je suis arrivé. Mathieu lui dit. Nous habitons le même quartier. Moi, c'est deux rues plus loin. Nous étions faits pour nous rencontrer. Allez, je te quitte. À demain. À la sortie. Et il s'éloigne. Alexis, en entendant tout aller, il se dit qu'il n'aurait jamais cru qu'il fasse sa connaissance et sympathise avec un élève de ce lycée. sonne à la porte. La porte s'ouvre. C'est sa mère. Bonjour, entre. Il entre. Elle lui demande, tu veux goûter maintenant? Il lui dit, non, je vais étudier un peu. Plus tard, je goûterai. Et il va à sa chambre. Il s'assoit à son bureau. Sort de son cartable un cahier et un livre. Commence à étudier, mais ne peut s'empêcher de penser à Mathieu. Tu vois son visage sans arrêt. Il ne va tout de même pas m'empêcher de travailler. Mais il ne peut pas s'empêcher de penser à lui. Il a un ami. Il appelle un ami. Son ami. Il le connaît à peine. Il sort de sa chambre. Pour aller rejoindre sa mère à la cuisine pour prendre son goûter. S'assoit à table. Il dit à sa mère, j'ai fait la connaissance d'un garçon très bien. Il habite le même quartier que moi. Sa mère lui dit, je savais que tu allais trouver quelqu'un. Ah oui, j'ai une lettre pour toi. Une lettre? Oui, une lettre à ton nom. Et elle va chercher la lettre au bout de fait. Lui demande qu'est-ce que c'est. Elle lui dit je ne sais pas. Il regarde le timbre, voit que ça vient de Lyon, l'ouvre. C'est la mère de Boulou qui lui écrit. Elle lui annonce la mort accidentelle de son petit. Une balle perdue dans la rue alors qu'il passait. On ne sait pas qui a tiré en pleine journée. Il est mort sur le coup. Elle lui écrit parce que Boulou lui avait beaucoup parlé de lui. Il était rentré déprimé de ses vacances. Et elle avait dit qu'il avait connu quelqu'un de très bien. Et c'était vous. Pensez souvent à vous en pleurant. Notre pauvre Boulou n'a pas eu une vie bien facile ni bien heureuse. Son besoin d'affection était dû au fait de son caractère très sensible et renfermé. Il était traité par nous comme une personne bizarre. et nous n'avons pas su vraiment l'aimer. On a trop montré qu'il n'était pas comme les autres. Ça l'a empêché de s'épanouir. J'en ai eu du remords. Je crois que vous êtes le seul à l'avoir compris et respecté. Et lui vous aimait peut-être un peu trop, mais ça faisait partie de son caractère. Nous l'avons fait incinérer dans le cimetière de la Guillotière, cimetière de notre quartier, avenue Berthelot. La police a dit qu'il fallait le faire rapidement. L'assassin de notre fils sera sûrement jamais retrouvé. Pensez à lui comme il a pensé à vous et continuez à l'aimer. Il le méritait bien. Alexis est effondré. Sa mère le regarde. Mauvaise nouvelle, il lui dit. Oui, un ami est mort d'une balle perdue. Je ne savais pas. Tu le connaissais bien? Oui, je crois. Alexis se sent coupable. Il revoit le visage triste et tremblant de son ami. Il était sensible avec lui. Et il ne lui a même pas fait un geste d'adieu. Rien. Il l'a traité comme un égoïste. Il a l'impression que c'est lui qui a tiré la balle. Voix trouble. Et perd l'équilibre. Sa mère se repenche vers lui. Tu n'es pas bien, mon petit? Va t'allonger un moment. Soulève. Et l'accompagne jusqu'à sa chambre. Dans la chambre, elle l'aide à s'allonger. Et elle le laisse. Alexis se sent coupable, coupable d'avoir trahi son ami. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.